Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie, Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h.
Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs, ravi encore une fois d'être à l'antenne de Radio Courtoisie pour vous retrouver.
Aujourd'hui au programme, l'assassinat du jeune Quentin et son traitement politico-médiatique. Et puis donc vaste sujet parce que, sujet à branche comme on dit Pierre-Henri.
Oui, sujet à branche et à escalier, parce qu'on en entend des vertes et des pas mûres. Dans tous les domaines, sur toute la palette de couleurs du mensonge et de la calomnie, en particulier de la gauche, mais pas que, malheureusement.
Pas que. Et on va finir cette émission sur ce qui se passe au Mexique, puisque un grand patron
de cartel
de la drogue
a été liquidé
par la police mexicaine. Ce qui a quand même provoqué, et c'est ça qui est choquant, des émeutes, comme quoi, parce qu'en fait, ces barons de la drogue, des émeutes ou des enfin, je ne sais pas ce qui se passe exactement, j'ai pas trop.
C'est un ensemble de blocages, d'attaques, d'incendies multiples.
Parce qu'on imagine que ces grands patrons des cartels faisaient vivre beaucoup de gens.
Alors, d'une part, mais surtout, ils sont à la tête de dizaines, de milliers d'hommes armés, parfois de dizaines de milliers d'hommes armés, et armés au moins autant, voire plus et mieux.
Oui, ça a souvent été le cas d'ailleurs en Amérique centrale.
Ouais.
On se souvient des.
De la Colombie.
De la Colombie, etc.
Mais en fait, la Colombie, quand on regarde maintenant par rapport au Mexique, on en parlera en deuxième partie d'émission, c'était presque amateur.
Ah oui,
mais on aura l'occasion
d'en
reparler.
Alors, commençons par cette affaire. On en a parlé lundi dernier.
Lundi dernier.
Nous n'étions pas. C'était une émission enregistrée lundi dernier. Là, nous sommes en direct, mais lundi dernier, c'était une émission enregistrée deux jours avant. Et lorsque nous l'avons enregistrée, c'était quelques heures avant le décès du jeune Quentin, puisque nous l'avions enregistré samedi après-midi et le décès a été déclaré à 19h.
Et puis, c'était de fait quelques jours avant les interpellations.
Absolument.
Et la mise en examen de 6 ou 7 individus, dont l'un des assistants parlementaires de Raphaël Archenault Di Arnaud, ancien co-fondateur et leader, si je puis dire, de la Jeune Garde, ce mouvement d'extrême gauche,
cette milice
de cogneurs, qui est directement responsable de la mort de Quentin.
Alors, le décès donc a été officiel samedi en début de soirée. On s'étonnait beaucoup du fait que les auteurs n'étaient pas arrêtés. Ils ont fini par être arrêtés. La police nous a expliqué qu'il fallait les arrêter au même moment, etc. En tout cas, moi, je note une chose, c'est que vous allez voir de quoi je parle. Les défenseurs de ces criminels. Nous explique que c'est une bagarre et que remarquez cette bonne guerre, c'est une ligne de défense assez classique. C'est une bagarre qui s'est mal terminée. Or, bon, grâce à la vidéosurveillance, on voit bien que ce n'est pas une bagarre, parce qu'une bagarre, il faut leur expliquer qu'une bagarre, c'est deux groupes qui se tapent dessus, et il y a des blessés des deux côtés, et c'est à peu près plus ou moins égal.
Voilà, plus ou moins à égalité.
Dans une bagarre, on met pas quelqu'un par terre, on se met dessus assis à le piétiner.
7 contre 1 à lui donner des coups, donc des coups de pied dans la tête. À qui veut-on faire croire qu'il y a autre chose qu'une intention homicide derrière le fait de s'acharner à donner des coups de pied dans la tête de quelqu'un à terre?
Alors, dans une bagarre d'ailleurs, il y a des blessés des deux côtés, ce qui n'est pas le cas. Mais surtout, s'ils étaient de bonne foi, ils se seraient rendus. Quand on est de bonne foi, on a participé à une bagarre et à un mort et on n'a pas voulu lui donner la mort. Eh bien, on se rend. On n'essaie pas de prendre la fuite. Or, nous apprenons, suite à cette arrestation, que les auteurs s'organisaient pour camoufler des preuves, pour partir. Certains se sont éloignés. Et pour cela, ils ont été aidés aussi par un autre attaché parlementaire, par des gens très proches de la France Insoumise, etc. Alors bon, tout ça a étonné les médias. Tout ça a étonné certains hommes politiques, mais enfin, pardon, mais de quoi s'attend-on de la part de ce genre de milice qui est autorisée en France? Parce que, j'allais dire, moi personnellement...
Parce que c'est une force d'appoint, en fait, du pouvoir régalien.
C'est ça.
C'est une force d'appoint.
Moi, je n'en veux pas, je mets des guillemets, à ces gens ou à les filles. On les connaît, on sait qui ils sont. Et donc, je n'ai pas de surprise.
Ils sont dans leur rôle.
Voilà, ils sont dans leur rôle, ce sont des miliciens d'extrême gauche. Moi, j'en veux d'abord au ministre de l'Intérieur. Parce que souvent...
Au pluriel. Il faudra remonter au moins
absolument,
jusqu'à Manuel,
au moins le dernier, là, l'actuel, Valls, l'actuel voilà. Qui, rappelez-vous, parce qu'on oublie vite, et je trouve que la plupart des chaînes de radio et de télévision, qui parfois, pour celles qui essaient d'être honnêtes, mettent en évidence le comportement ignoble, comme l'a dit le Premier ministre, pour une fois, je suis d'accord avec lui,
fois, oui.
De LFI, mais ils oublient le comportement des autres, à savoir le premier d'entre eux, le ministre de l'Intérieur, qui, le lendemain de cet assassinat, nous a expliqué que ne vous emballez pas, nous avait-il dit, il s'agit d'une bagarre, on ne sait pas de quoi il s'agit, de qui est responsable, etc. On verra. Donc déjà, il a minimisé les faits, il a mis tout le monde dos à dos, c'est ce qu'a fait son maître, M. Macron, un peu plus tard. Et puis surtout, il est parti en Algérie, aller cirer les chaussures de ceux qui nous crachent à la figure matin, midi et soir, qui détiennent un otage français, rien que ça. Il est allé sourire aux lèvres, leur faire des courbettes. Alors pendant que nous découvrions que nous avons un jeune qui a été assassiné par une ministre d'extrême gauche, alors que les auteurs n'étaient pas encore arrêtés, monsieur le ministre de l'Intérieur, après nous avoir dit que circuler, il n'y a rien à voir, était en Algérie en train de faire des courbettes au régime algérien.
Oui, et après il est revenu, le discours avait changé, le ton s'était durci parce qu'il a dû recevoir des consignes, sans doute
bah, ministre... Il a vu que l'ampleur était importante.
Et surtout, il a reçu des consignes de l'Élysée ou du Premier ministre, qui disait que, en gros, que c'était une aubaine pour saper un petit peu les chances électorales de LFI, le plus sérieux concurrent de gauche au parti centriste, voire extrême centriste, si on peut dire. Mais tout ça, c'est de la manœuvre. Je pense qu'il y a quelques réactions qui ont été sincères chez les macronistes et chez les centristes, mais derrière, c'est quand même de la grosse manœuvre, puisque en temps normal, ils se servent de ces milices, de ces forces d'appoint, et ils tolèrent leurs exactions. Parce que, en fait, depuis le meurtre de Quentin Derenque, on en apprend de belles sur les méthodes de la Jeune Garde, en particulier à Avignon, là où s'est fait élire député Raphaël Arnaud, qui était quand même à la tête d'un mouvement dissous, enfin en cours de dissolution, parce qu'il n'est toujours pas dissous, plus de 6 mois, je crois, après la décision initiale de commencer le processus de dissolution.
Alors, vous remarquerez d'ailleurs que quand le ministre de l'Intérieur dissout une organisation de droite, elle est dissoute très rapidement. Et puis, ceux qui essaient de faire quelque chose pour la refaire naître, ils sont arrêtés immédiatement pour...
Une incise à ce sujet, parce qu'on a appris, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup plus d'informations ni de confirmations. On a appris par Europe 1 aujourd'hui qu'il y a eu une réunion sur les mouvements radicaux politiques, visiblement, qui a été tenue à Matignon. Ce qu'il semble sortir de cette réunion, c'est que la volonté du président serait de dissoudre deux nouveaux groupes, mais qui sont des groupes identitaires.
Oui, bien sûr.
Mais c'est pas du tout des groupes d'extrême gauche.
Mais évidemment, on l'avait deviné. Mais revenons à l'extrême centre, qui là a pris sa posture de choqué par ce qui s'est passé, etc. Ouais. Et voilà ces gens sans foi ni loi. Moi, je les appelle comme ça, parce que quand on tue quelqu'un et on va marcher dans son horizon funèbre, vous voyez, enfin dans son, c'est quand même ignoble, parce que lorsque nous avons Maud Bréjon, qui est porte-parole du gouvernement, qui vient nous expliquer que voter LFI, c'est quelque chose d'extrêmement grave, là, et pour cause, regardez ce qu'ils font, regardez qui ils emploient, regardez qui ils font élire. Mais enfin, jeune fille, qui a fait élire
Raphaël Arnaud,
alors elle va me dire, c'est le PS qui s'est retiré, mais qui a fait élire cette députée, Pierre-Henri, rappelez-moi son nom.
Rima Hassan.
Non.
Mathilde Panot.
Non, celle qui veut se couper les bras, là.
J'ai oublié son nom, en effet.
Ce n'est pas le Parti Socialiste. C'est Horizon, qui est pire encore.
Ce qui est pire que Renaissance. Voilà.
C'est monsieur Édouard Philippe qui préfère voter communiste.
Alma Dufour.
Qui a fait élire Alma Dufour? Qui a appelé à faire un barrage? Leur barrage, d'ailleurs, je tiens à le dire, il est ensanglanté. Il est plein de barbelés et de sang, leur barrage républicain. Et donc, qui a fait ça? Monsieur Attal. Elle en fait partie, son parti. Enfin, Maud Bréjon, elle fait partie du mouvement de Gabriel Attal. Donc, je sais qu'elle n'était pas tout à fait d'accord, mais quand on n'est pas d'accord, on démissionne.
On démissionne, on change de mouvement.
Donc tous ces gens sont responsables, mais pire que ça, parce que tous ces groupuscules, que ça soit la Jeune Garde, mais il n'y a pas que la Jeune Garde, il y a plein d'autres.
Bien sûr que non.
Ça fait des années qu'ils cassent tout. À chaque fois qu'il y a une manifestation, ils cassent ils transforment Paris en champ de bataille, ils détruisent les restaurants, ils détruisent les commerces. tous les noms... Que font-ils contre ça ? Rien.
Tous les noms des militants dits Black Blocs, qui viennent parfois de toute l'Europe, hein, d'Allemagne, de Belgique, de Hollande. Tous les noms des responsables des groupuscules de cogneurs type Antifa Action Paris-Banlieue ou Action Antifa Paris-Banlieue, toujours pas dissoute en Conseil des ministres. Hein. Tout ça, c'est bien évidemment connu. C'est connu depuis longtemps avant DRG, maintenant de la DCRI, c'est connu de la DGSI, pardon, on dit maintenant, c'est connu de la PJ, c'est connu du ministère de l'Intérieur. On peut les arrêter du jour au lendemain, on peut faire ce qu'on a l'habitude de faire depuis très longtemps, c'est-à-dire des arrestations préventives. On les arrête avant les grandes manifestations pour éviter qu'il y ait trop de casse. Non!
Les gouvernements successifs du centre n'ont rien fait contre ces milices dont ils connaissaient l'existence et les actions.
Mais
ce
dont il faut que les auditeurs aient bien conscience, c'est qu'ils n'ont rien fait sciemment.
Sciemment, parce qu'ils les utilisent. Et pire encore, c'est, alors ils les laissent parce qu'il n'y a pas que contre les groupes de droite qu'ils interviennent. Ils interviennent dans n'importe quelle manifestation pour tout casser. Mais non seulement ils ne font rien contre eux, mais comme vous dites, ils les laissent faire. Et puis, on se rend compte aujourd'hui que ces groupes, par exemple, vous savez que ce ne sont pas juste des bagarreurs, hein. Vous parlez de coups de poing, etc. Ce sont des gens, pas tous, mais pour une partie d'entre eux, qui sont allés faire la guerre avec les groupuscules staliniens, kurdes, par exemple, dans le Kurdistan.
Ouais, au Kurdistan.
Donc voilà, ce sont les héritiers d'Action Directe. Ce sont les héritiers... On s'étonne de voir qu'il y a des milices d'extrême-gauche, mais on a oublié que dans les années 70, il y a eu dans toute l'Europe des groupuscules d'extrême-gauche qui ont fini par tuer des gens. On oublie ça.
On savait qu'il y avait des branches de la Jeune Garde qui avaient été... qui d'ailleurs, là, pour le coup, sont derrière les barreaux, qui avaient été interpellés pour trafic de drogue dans le sud de la France. Oui. On apprend visiblement que d'autres membres de groupuscules dits Antifa, donc d'extrême-gauche, donnaient des conseils juridiques aux dealers à Lyon, en particulier les dealers de la place Mazagran, qui est assez connu comme point de deal à Lyon.
Oui, comme ils donnent des conseils juridiques aux immigrés pour qu'on puisse pas aux OQTF, pour qu'on ne puisse pas les expulser.
Dealers clandestins, délinquants, criminels, tout ça, ce sont des armes contre le capitalisme.
Ce que vous ne savez pas, c'est que le gouvernement lutte contre les groupuscules factieux.
Ah,
bien sûr, ils en arrêtent plein qui tentent des... Mais vous ne saviez pas, parce qu'ils sont très efficaces lorsqu'il s'agit d'un abruti de 70 ans qui met sur Facebook qu'il va renverser Emmanuel Macron avec son fusil de chasse.
Oui.
Il écrit à son copain qui en a 80 qu'ils vont faire un coup d'État le lendemain. Okay. Et là, on nous rabâche les oreilles pendant une semaine qu'on a évité un coup d'État, Pierre-Henri.
Oui.
On débarque chez eux à 6h du matin, eux.
Hein, oui, tout à fait.
Et puis on les embarque avec leur fusil de chasse et ils sont inculpés de tentative de coup d'État. Alors que la Jeune Garde, non, il y a des perquisitions chez les types de la Jeune Garde, non.
Non, très peu, en tout cas pas assez. Et puis Raphaël Arnaud est toujours en place. Alors quand même, du côté de LFI, bien évidemment, c'est l'extrême gauche, donc on s'attend à de l'abjection. On n'est pas déçu. Mais quand même, quand Madame Panot, quelques jours après la mort de Quentin Derenc, qui est interrogée sur la chaîne parlementaire. C'est pas rien, quand même. Et qu'elle, bien évidemment, elle rejette la faute sur le mouvement féministe de droite, Némésis, en disant « c'est de la faute de Némésis si Quentin est mort ». C'est peut-être de la faute de ceux qui lui ont shooté dans la tête à cette contrainte.
Comme vous me l'aviez dit hors antenne, Pierre-Henri, c'est la faute de la jupe courte que les femmes se font
exactement.
Violer.
Exactement, mais c'est le vieil argument, si elle s'est violée, c'est que sa jupe était trop courte. Je vous cite ce qu'a dit Madame Panot au micro de LCP. « Nous ne demandons même pas la dissolution de Némésis, nous demandons à ce que Némésis soit tenu en dehors de nos meetings, en dehors de nos conférences, en dehors de nos manifestations.
Bien sûr.
Sinon,
elles sont jamais rentrées.
Sinon, ça va mal finir.
Oui, menace de mort, une fois de plus.
Donc, c'est en gros, si ça, c'est pas de l'approbation des méthodes de la Jeune Garde qui tue à coups de pied et une promesse de réitérer si jamais des manifestantes pacifiques revenaient avec des banderoles, je sais pas ce que c'est. C'est les méthodes de Dolores Ibarruri juste au début de la guerre civile en Espagne.
Qui a fini
l'extrême gauche tue, vous le disiez la semaine dernière,
c'est le parti du meurtre. Alors, l'extrême gauche est dans le mensonge absolu maintenant. Hein. Donc, évidemment, j'ai entendu Mathilde Panot nous expliquer, et pas qu'elle d'ailleurs, que ces groupes d'extrême droite viennent perturber leur meeting. Donc si on ne connaît pas l'affaire, on a l'impression que, en fait, c'est ce que font eux. C'est eux qui sont rentrés dans le meeting d'Éric Zemmour avec une banderole. C'est
eux, dans des dizaines de meetings.
C'est eux qui, lorsque moi j'étais étudiant, j'invitais notre ami Jean-Claude Martinez à Sciences Po Paris, c'est, de manière officielle, hein, on avait le droit de l'inviter, c'est eux qui étaient rentrés dans l'amphi et qui l'ont empêché de parler.
L'inoffensif Alain Finkielkraut n'a pas pu faire de conférence il y a 2 ans ou 3 ans à Sciences Po à cause de groupuscules gauchistes.
Exactement. Alors que là... Ce qu'il faut savoir, contrairement à ce qu'il raconte, c'est que personne ne perturbe rien. Les jeunes filles qui étaient en train de protester, elles étaient à l'extérieur avec une banderole. Donc ça va, on a le droit de ne pas être d'accord avec vous. Dehors, pacifiquement, personne n'a rien perturbé. Le meeting de l'agent infiltré Rima Hassan, l'agent infiltré des régimes islamistes qui s'appelle Rima Hassan, a bien eu lieu. Alors, il y a autre chose, c'est que l'émission avance, on va peut-être passer au volet 2, parce que le volet 2, c'est qu'il n'y a pas que la jeune garde et LFI. Il y a leur suppôt, et leur suppôt, c'est les médias qui se présentent comme indépendants. Je ne parle pas que des médias, des chaînes publiques, parce que les chaînes publiques, bon, on a compris, ça fait longtemps qu'on le dit, que la France Télévisions et Radio France sont tenues par l'extrême gauche. Mais il y a aussi les chaînes privées.
Tout à fait.
Des chaînes privées qui sont encore pires que les chaînes publiques.
Sur lesquelles on va faire
une pause, on va parler de ces médias qui sont un peu le bras armé de LFI, finalement.
L'air de la calomnie.
Armé avec les paroles médiatiques.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, revenons donc à notre sujet, donc cette affaire de...
Les médias.
Les médias qui sont le support de LFI, la jeune garde. Alors, c'est très fin, c'est très malin. Évidemment, ils viennent pas les défendre comme ça de manière un peu brutale. Comment ils les défendent? C'est que ils relativisent. Alors, je reviens sur, j'aime bien citer cette phrase de Benoît XVI qui disait le 20e siècle, si je me souviens bien, corrigez-moi Pierre-Henri si je me trompe, il avait dit le 20e siècle était le siècle de l'affrontement ou quelque chose comme ça, et le 21e, ce sera le siècle du relativisme. Et en fait, voilà, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui relativise tout et qui met tout le monde dos à dos. Il y a tous les médias qui... Et c'est une façon de défendre LFI. Parce que si vous voulez défendre quelqu'un de manière fine, intelligente, par rapport à l'ampleur de ce qui s'est passé, enfin, il y a un mort, etc., donc c'est compliqué de venir dire « non, non, ils n'ont rien fait ». Et donc, on fait ça beaucoup plus finement. On relativise. On dit « oui, mais », vous voyez. Et donc, tous les médias, au lieu de montrer un peu ce que c'est la jeune garde, de montrer un peu ce que c'est LFI, de leur dangerosité, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de vous dire « oui, effectivement, ils sont dangereux, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a les autres. »
Mais les autres, en fait, sont plus dangereux. Alors déjà, nous sommes lundi, la marche à Lyon en hommage à Quentin a eu lieu avant-hier. Elle a réuni plus de 3000 personnes, presque 4000 ou plus, 4500. Tout s'est bien évidemment très bien passé. Les deux jours qui ont précédé, les discours dans ces médias privés comme publics étaient apocalyptiques. On nous prédisait une marche de néo-nazis.
Il fallait faire peur pour que les gens n'y aillent pas.
Bien évidemment, pour que les gens n'y aillent pas. Et puis pour salir la mémoire de Quentin de Roque.
Ils n'ont fait que ça. Ils sont en train de le tuer une deuxième fois.
Exactement. Et puis bien évidemment, depuis que cette marche a eu lieu, sur quoi titraient les BFM et les LCI? C'est sur un éventuel salut nazi qui aurait été repéré parmi 3 ou 4 000 manifestants.
Oui, Pierre-Henri, vous connaissez la manipulation de l'extrême-gauche. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de nazis en France, c'est même pas groupusculaire.
C'est combien?
Ce n'est pas grand-chose. Des illuminés, il y en a partout, hein, vous savez. Mais alors, oui, ok, mais enfin... En l'occurrence, c'est pas eux qui ont tué quelqu'un il y a une semaine.
C'est eux
mais
qui ont eu une victime.
Oui. Enfin, et puis, y a pas que ça.
C'est la droite qui a eu une victime.
Je sais bien qu'il y a toujours, il y a des illuminés partout. Enfin, c'est marginal et beaucoup pour les qualifier. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire deux jeunes hommes qui viennent dans une manif et qui font un bras tendu? Qui me dit qui sont? Est-ce qu'on a leur identité? Est-ce qu'on sait qui sont-ils? Et vous savez ce que c'est la manipulation? Est-ce que vous savez
Très
ce que
facile.
C'est les mouvements d'extrême gauche? Hein, qui viennent, vous savez, ils ont prédit que ce sera une manif nazie. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent... Qui me dit que ces deux jeunes hommes...
Et quand c'est pas l'extrême gauche, c'est la police.
C'est la police. Qui me dit qui sont ces deux jeunes hommes? Qu'est-ce qu'on en sait?
Rien
qui
du
me
tout.
Dit que c'est pas deux militants d'extrême gauche qu'on a missionnés pour aller salir cette manif?
Mais bien évidemment, depuis trois ans.
Je n'en sais rien, je n'affirme rien, mais enfin.
Dans toutes les manifestations pro-palestiniennes et pro-Gaza, le nombre, les milliers de fois où on a entendu mort aux sionistes, mort aux juifs, sale israélien, abba Israël, etc., mais que les mêmes médias vont vous dire que, pardon, c'est marginal.
C'est marginal.
Ça doit absolument pas, comment dire, diminuer la justesse de la cause pro-palestinienne, tout ça. Non, non, c'est rien du tout, on les a à peine entendus. Donc, bien évidemment, suivant que vous êtes blanc ou noir, les jugements de cour, etc., etc. Mais là, le degré de mauvaise foi, il y a un autre exemple récent, la banderole qui a été déployée à l'endroit où Quentin a été assassiné, est une banderole qui disait « camarade,
adieu,
toujours
camarade.
Présent.
Adieu camarade ». Adieu camarade.
Elle est précédée du chrisme. Pour les auditeurs qui ne sauraient pas, vous savez que ce sont deux lettres grecques, qui héros, qui sont apparues en rêve à Constantin avant la bataille du pont Milvius, donc on est au tout début, c'est 313.
Qu'on voit dans toutes 312, les églises de 310, France et de Navarre. Hein.
Voilà. Et qui donc depuis 1700 ans est un symbole chrétien. Voilà.
On les voit dans toutes les églises.
On le voit dans toutes les églises, dans l'iconographie. On le voit brodé, bien évidemment, sur les vêtements ecclésiastiques, du prêtre.
Pendant la messe.
Et alors là, les crétins des chaînes d'infos privées en
les
continu...
Les illettrés, ça voilà, s'appelle illettrés incultes.
Viennent nous dire que c'est un signe de ralliement identitaire ou d'extrême droite. Mais le pire, c'est qu'il n'y a personne sur les plateaux où il y a tout un tas d'intervenants qui sont experts en tout, experts en expertise, comme on dit. Il n'y a personne pour leur dire que c'est un symbole chrétien depuis 1700 ans et qu'il y en a tous les dimanches brodés sur les vêtements des ecclésiastiques.
Non, mais personne... Vous savez, les experts, alors les experts qui ne sont experts en rien, qui sont sur les plateaux, ou bien ils le savent et ils ne veulent pas corriger parce que ça les arrange bien, parce qu'ils sont d'extrême gauche eux aussi, ou bien ils ne savent rien. Et d'ailleurs, souvent, tous ces experts étaient là, de la même manière, pour défendre l'extrême gauche, sans trop montrer qu'il la défendait. Voilà. Donc c'était, on a vu M. Slama, par exemple, sur LCI, pour ne citer que lui.
Et le fils, Mathieu Slama.
Oui, voilà.
Oui, qui, Dieu.
Qui était là, en train d'expliquer que le seul danger en France, c'est l'extrême droite. C'est elle qui tue tout le temps.
Oui.
Mais alors, c'est des affirmations comme ça. Je ne sais pas. Ils sont où, les morts de l'extrême droite?
Moi,
je ne les
vois pas. Voilà, justement, il y a la fameuse liste qui a été lancée d'abord par Libération, on ne sait pas de qui elle émane, et qui prétend que de 86 à... Oh. 2026, eh bien, il y aurait eu 4 ou 6 morts dus à l'extrême gauche, 58 dus à l'extrême droite.
Oui, moi aussi, je peux me pointer sur un plateau télévision, dire qu'il y a eu 1 million de morts de l'extrême gauche il y a une semaine,
oui,
et
voilà.
Puis 0 de l'extrême droite.
Vous
chacun dit
seriez
veut,
d'ailleurs
hein.
Plus près de la réalité, mais oui. Cette liste-là, quand vous regardez le détail, elle agglomère des crimes de droit commun qui n'ont rien à voir avec l'extrême droite. Par exemple, le rugbyman Arumburu, qui a été tué par un abruti de vétéran psychotique. Et ça, il faut dire que l'avocat de la famille d'Arumburu était sur le plateau, je crois, de BFM ou de LCI, a dit qu'il n'y avait aucun motif raciste dans ce meurtre, qui était un crime de droit commun pur.
Oui, oui,
il est dans la liste. Quand c'est pas ça, vous avez certains crimes visiblement commis par des nationalistes corses.
On comptabilise. Alors, à l'extrême droite.
Ben oui, parce que nationaliste égale extrême droite. Vous connaissez un nationaliste corse qui soit à l'extrême droite? Ils sont tous de gauche ou d'extrême gauche.
Oui, et la plupart étaient nationalistes algériens. On compte où?
Oui, parce que... ça doit être ça. Enfin, donc, en fait, comme d'habitude, on attendait de l'abjection de l'extrême gauche, on a été servi. On attendait du mensonge des grands médias, on est servi.
Ils sont déchaînés.
Ah, oui.
Ils sont déchaînés. En fait, ils sont en panique, comprenez? Parce que cette affaire a eu...
Ça rentre pas dans leur vision du monde.
Oui, et puis cette affaire, ils s'y attendaient pas. Cette affaire a mis au grand jour...
Tout ce qu'ils attendent, c'est de trouver l'inverse.
Voilà, en fait, ils sont en panique parce que leur chouchou, LFI et sa milice, est en difficulté. Ils viennent au secours et ils sont en panique. Et donc, et là, quand on est en panique, tout est bon. Le mensonge se multiplie par 10. Tout est bon pour... essayer de sauver la face. Et là, ils sont déchaînés.
Pas encore, mais il nous reste un petit sujet international dans les 4 minutes qu'il nous reste.
Allons-y. Mais juste un mot pour conclure sur l'affaire Quentin. Au-delà des mensonges médiatiques, etc., il y a quand même encore des gens qui sont plus classés à droite, et qui ont peur, qui prennent des gants, qui n'osent pas, etc. Mais je tiens à noter la présence de monsieur, d'un député, d'un sénateur, pardon.
Sénateur LR, tout à fait.
D'un sénateur LR qui
à la marche.
À la marche, et qui s'en est expliqué sur une chaîne de télévision.
Et qui n'a rien lâché.
Rien, il était excellent. Et pour une fois.
Bravo.
Bravo, et il faut le dire.
C'est courageux, tout à fait. Un point rapide pour terminer sur le Mexique, oui, parce que vient d'être exécuté, et c'est un bienfait pour l'humanité, un dénommé Nemesio Oseguera, dit El Mencho, qui était l'actuel plus puissant chef de cartel, à savoir le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, qui avait dépassé celui de Sinaloa. Alors vous savez que les groupes criminels au Mexique sont de véritables petites armées. Il y a plusieurs cartels concurrents, donc Jalisco, Ciudad Juarez, le Golfe, etc. Et ils disposent de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'hommes, de sicarios, d'hommes armés avec du matériel lourd, y compris...
C'est l'État dans l'État, en fait.
Des blindés légers, des lance-roquettes, des mitrailleuses lourdes, des explosifs, etc., etc. Et puis, ce sont, en fait... En fait, je ne comprends pas qu'il y ait, en lisant un petit peu, parce qu'il ne s'agit pas d'aller chercher des preuves visuelles, mais en lisant un petit peu ce que font les cartels au Mexique, je ne comprends pas qu'il y ait un athée assez stupide pour nier encore l'existence du diable. Ce sont des gens d'une sauvagerie, d'une barbarie et d'un sadisme absolument délirant. Et là, donc, grâce à des renseignements venant des États-Unis, donc de la DEA et peut-être aussi de la NSA, de la CIA, les forces spéciales mexicaines ont enfin exécuté ce monstre.
Oui, sous pression américaine tout de même.
Sous pression américaine, parce que l'actuelle présidente du Mexique n'est pas très encline à continuer durement et drastiquement la lutte contre la drogue.
Et tout d'un coup, elle se réveille parce que grâce aux menaces américaines.
En 18 ans, il y a plus de 500 000 morts dus au cartel au Mexique. C'est plus que la Syrie.
En fait, elle a eu peur. Qu'il lui arrive, c'est qu'il est arrivé à M. Maduro. C'est ça la vérité.
Voilà.
Parce qu'on lui a fait comprendre qu'elle est sur la prochaine sur la liste.
Et dans les quelques secondes qui nous restent, en effet, eh bien, ce que ça a provoqué, ce sont des flambées de violence, en particulier dans l'état du Jalisco, mais pas exclusivement, où les nervis en fait, de ce cartel ont attaqué des commerces, attaqué des bâtiments officiels.
Des scènes de guerre civile.
Des bâtiments sont incendiés, des voitures sont incendiées, des autoroutes sont coupées. Et donc, voilà, ça va créer le chaos. Et ce qui va être intéressant de suivre, c'est l'attitude des États-Unis par rapport à ce chaos et jusqu'où ils vont aller, justement, pour garantir la sécurité et la lutte contre les cartels au Mexique. Et on arrive à la fin de cette émission. On aura sans doute l'occasion de reparler du Mexique.
Merci.
Et à bientôt.
À lundi prochain pour Culture et Politique. À très bientôt.